folie comme seul loi. Faudra que ton angoisse disparaisse si se passe. Voilà l'intraveineuse, ta solution à cause.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sylvie.
Bonjour Denis.
Alors aujourd'hui, on va poursuivre nos commentaires sur le livre « Je ne serai plus psychiatre » de Gérard Hoff.
Il faudra peut-être faire « Previously ». Dans l'entonnoir, puisque c'est la cinquième, je crois, émission qu'on fait sur le livre de Gérard Hoff.
Oui, je crois bien.
Bah, tout à l'heure, puisque tu dis que t'as d'abord quelques news.
Oui. Alors, news de hier. Donc là, juste avant l'émission, on entendait un morceau breton. Et ben là, c'est une info de braiseinfo.com. Bon, elle est aussi dans d'autres journaux. Hein, c'est France Info, Libé, tout ça.
Excuse-moi, enfin, je me trompe peut-être, mais Braise Info, c'est pas un truc limite facho, non?
Ah, peut-être.
Ah, enfin, je ferai que je. Mais il me semblait, mais ah, bon, c'est peut-être. C'est peut-être la diffamation,
peut-être.
Hein, mais bon.
Ah, je sais. En tout cas, là, c'est un résumé à peu près pas du tout déformé, enfin, de ce qui s'est passé. C'est au sujet de la dépakine Sanofi, condamnée à indemniser la lanceuse d'alerte Marine Martin après 12 ans de combat judiciaire. Le tribunal judiciaire de Paris a récemment rendu une décision historique dans l'affaire de la dépakine, un médicament prescrit aux femmes enceintes épileptiques et responsable de graves malformations et troubles neurodéveloppement chez leurs enfants. Voilà, donc c'est un médicament qui cause des troubles neurodéveloppementaux quand on en prend pendant la grossesse. Après 12 ans de bataille judiciaire, Marine Martin, la présidente de l'association APESAC, association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, et sa famille ont obtenu gain de cause. Sanofi, le laboratoire pharmaceutique responsable de la mise en marché sur le marché de la dépakine, a été condamné à verser des indemnités importantes à la famille Martin pour défaut d'information et manquement à son devoir de vigilance. Une victoire judiciaire après une longue bataille. Marine Martin, souvent surnommée Madame Dépakine, est à l'origine de la révélation du scandale de ce médicament, prescrit à des femmes enceintes entre 1998 et 2002. La dépakine a provoqué des malformations et des troubles neurodéveloppementaux chez des milliers d'enfants exposés in utero. Ce médicament, bien que connu pour ses effets indésirables sur les fœtus, a continué à être distribué sans précaution suffisante pendant de nombreuses années. Marine Martin a lutté inlassablement pour faire reconnaître la responsabilité de Sanofi dans ce scandale de santé publique. Dans son jugement, le tribunal a condamné Sanofi Aventis France pour défaut d'information des risques malformatifs et neurodéveloppementaux et pour une faute de vigilance durant les grossesses de Marine Martin. Le tribunal a estimé, dès lors que le médicament avait montré des effets néfastes sur les fœtus, Sanofi aurait dû diligenter des études plus approfondies et informer les patientes des dangers encourus. Des indemnités à la hauteur du préjudice subi. Le tribunal a accordé des indemnités bien supérieures à celles proposées par l'ONIAM, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux. Marine Martin a obtenu 153 000 euros pour ses préjudices personnels, bien au-delà des 26 000 euros offerts initialement par l'ONIAM. Quant à ses enfants, Nathan et sa sœur, ils ont également été indemnisés pour des préjudices, y compris un préjudice d'anxiété reconnu à hauteur de 50 000 euros. Le préjudice d'anxiété est lié aux incertitudes sur leur avenir, en particulier le risque transgénérationnel des troubles causés par la dépakine qui pourraient se transmettre à leurs propres enfants. Cette reconnaissance est une avancée majeure dans la jurisprudence concernant les victimes de médicaments dangereux. Un combat contre le déni et la négligence. Marine Martin n'a pas caché sa satisfaction face à cette décision, mais elle a aussi exprimé une certaine amertume. Elle dénonce les manœuvres dilatoires de Sanofi, qui a utilisé toutes les stratégies possibles pour retarder la reconnaissance de ses responsabilités et éviter d'indemniser pleinement les victimes. Cette décision justifie mon combat, mais reste amère tant Sanofi a tenté de me décourager, a-t-elle déclaré. Le laboratoire a longtemps invoqué la responsabilité de l'agence du médicament pour s'exonérer de toute faute. Cependant, le tribunal a estimé que Sanofi ne pouvait ignorer les risques liés à la dépakine et devait assumer la pleine responsabilité de ses actes. Des actions en justice qui continuent. Ce verdict s'inscrit dans un combat plus large contre Sanofi. En parallèle de ce jugement, plusieurs procédures judiciaires sont en cours. Une action de groupe menée par l'APESAC ainsi qu'une procédure pénale dans laquelle Sanofi a été mise en examen pour blessure involontaire, homicide involontaire et tromperie aggravée sont en cours. De plus, de nombreuses actions d'indemnisation individuelle continuent et des centaines de victimes ont engagé des procédures devant l'ONIAM. Donc l'organisme, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Le cas de Marine Martin est emblématique du parcours difficile des victimes de la dépakine qui luttent pour obtenir justice. Cette décision représente une victoire majeure pour elle, mais le chemin reste long avant que toutes les familles affectées soient pleinement indemnisées. Le verdict du tribunal judiciaire représente une avancée pour les victimes de la dépakine et marque une reconnaissance de la responsabilité de Sanofi dans ce scandale de santé publique. Pour Marine Martin, cette victoire judiciaire est le symbole de son engagement et du rôle crucial qu'elle a joué en tant que lanceuse d'alerte. Cependant, elle appelle à la poursuite du combat pour que Sanofi, après avoir longtemps nié ses responsabilités, assume pleinement les conséquences de ses actes.
Juste une parenthèse, Nicolas et Laurent me confirment que le Braise Info est bien un site facho, carrément facho.
Bon. Oui.
Ça doit être une dépêche AFP, hein, je suppose.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mais ça confirme que des fois, sur la dénonciation de scandales médicaux, on peut se retrouver avec des gens qui sont clairement nos ennemis politiques.
Oui, tout à fait.
Je pense que de toute façon, quand ça atteint ce stade-là, c'est...
Là, c'est vraiment une info qui a fait un petit peu le buzz, puisqu'il est passé vraiment par... ils en ont parlé à France Info, à la radio, et tout ça. Donc, c'est vraiment, le truc AFP, quoi.
Voilà.
Il n'y a pas eu de...
Non, c'est juste pour que les gens n'aillent pas, se disent pas « Ah, conseillé par l'entonnoir, allez voir ce site. »
Non, c'est pas... Alors, voilà.
Surtout, n'y allez pas.
Voilà.
Ou alors, si vous voulez vous renseigner de près sur des fachos. Voilà.
Ouais, exactement. Et... Alors, un autre news, là, on va en Belgique. Un commentaire peut-être sur l'info précédente, c'est que le plus gros des amendes sont... des dédommagements, c'est quand même des organismes publics qui indemnisent. Ouais, qui les indemnise. Donc, Sanofi, il n'a pas beaucoup à débourser encore.
Je ne me faisais pas de mouron plus sur l'idée qu'ils allaient se retrouver ruinés. Hein.
La Belgique condamnée par la CEDH, saisie par un ancien détenu interné psychiatrique. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. La Belgique a été condamnée à verser 7 300 euros à un de ses citoyens ayant saisi la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, pour contester les conditions de sa détention en internement psychiatrique. C'était donc, c'est dans 20 minutes, du 28 août 2024. La Cour européenne des droits de l'homme a donné raison ce mardi-là, à un citoyen belge de 63 ans, ancien détenu, qui avait saisi la juridiction. L'homme estimait ne pas avoir bénéficié d'une prise en charge thérapeutique adaptée à son état de santé mentale et ne pas avoir bénéficié d'une assistance juridique effective afin d'obtenir une décision sur la légalité de sa détention, a détaillé la Cour qui a condamné la Belgique. Elle a jugé pas régulière les conditions dans lesquelles l'homme avait été interné dans diverses institutions psychiatriques entre 1999 et 2020. La CEDH a rappelé que le plaignant avait initialement été reconnu irresponsable de ses actes entre guillemets, pour des faits de vol avec effraction et tentative de vol. Le mis en cause avait alors été interné. Il a ensuite passé 15 ans dans plusieurs centres de détention. Durant cette période, il s'est rendu coupable de plusieurs faits de vol et de violence commis pendant des permissions qui lui ont valu d'être réinstitutionnalisé. Enfin, de 2015 à 2020, il a été dans un centre de psychiatrie légale à Gand, en Belgique. Pendant tout ce temps, la commission de défense sociale du pays a pris des décisions biannuelles aboutissant au maintien du détenu en internement psychiatrique. Pour ne pas avoir respecté la Convention européenne des droits de l'homme, la Belgique a été condamnée à verser 7 300 € en guise de réparation du préjudice moral subi par le plaignant. Le CEDH a notamment estimé que le détenu a été interné, je cite, « en grande partie dans des établissements pénitentiaires qui ne sont en principe pas adaptés à la prise en charge des personnes présentant des troubles mentaux ». Voilà, donc dans des prisons tout court et non pas dans des prisons-hôpitaux comme on peut en trouver en Belgique sous l'institution de défense sociale. Et voilà, peut-être une troisième avant... Oui, ça, encore une. Alors, c'est une moins bonne nouvelle. Suicide d'une jeune fille à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, la psychiatre de Tarbes a été relaxée. Tarbes, Lannemezan, mardi 27 août de France Bleu, Béarn Bigorre. Le tribunal de Tarbes a rendu sa décision ce mardi 27 août dans l'affaire du suicide d'une jeune fille à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, Haute-Pyrénées. La médecin psychiatre qui était poursuivie pour homicide involontaire dans ce dossier a été relaxée. La psychiatre de Tarbes a été relaxée ce mardi après-midi dans l'affaire du suicide d'une patiente à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan. Le procès s'était tenu le 11 juin dernier au tribunal de Tarbes. La médecin était poursuivie pour homicide involontaire. Le 12 février 2017, une de ses patientes, Julie, âgée de 18 ans, s'est suicidée avec une écharpe alors qu'elle était prise en charge dans une unité psychiatrique de l'hôpital de Lannemezan. Un long combat pour une famille endeuillée. La réaction de mes clients est mitigée parce qu'une faute a été reconnue, c'est indiscutable au vu des éléments du dossier. La difficulté qui a toujours émergé dans ce dossier, c'est l'absence de causalité. En définitive, on leur dit qu'il y a bien eu une faute, et quand bien même il n'y aurait pas eu de faute, le suicide serait tout de même intervenu, a réagi l'avocat de l'entourage de Julie, maître Joseph Meza. Maître Meza avait plaidé des examens incomplets dans le dossier médical de la patiente, ainsi qu'une évaluation insuffisante sur le risque suicidaire. Lors de l'audience en juin 2024, le parquet avait requis la relaxe pour la psychiatre poursuivie pour homicide involontaire. Les parents de la victime espéraient une réponse judiciaire à leurs interrogations, selon leur avocat. Plusieurs hospitalisations à Lannemezan. Les parents de Julie se sont battus pendant plus de 7 ans dans cette affaire très douloureuse. La famille vit au sud de Vic-en-Bigorre, à Saint-Lézéré. Leur fille avait eu des soucis de santé à partir de 11 ans à cause de la maladie de Lyme. La jeune fille a été hospitalisée à plusieurs reprises à Lannemezan en psychiatrie et avait tenté de mettre fin à ses jours, avait rapporté l'avocat de la famille, maître Joseph Meza. Après une tentative de suicide, Julie avait été admise en pavillon fermé le 19 janvier 2017 dans une chambre médicalisée. Sa médecin référente a toujours assuré qu'une évaluation du risque suicidaire avait été menée, mais sans avoir détecté une urgence particulière. Voilà. Est-ce que vous voulez connaître les symptômes tardifs de la maladie de Lyme?
Puisqu'on va faire un débat dimanche, là, qui est le groupe TV qui s'appelle Christine, vous êtes une tique. La maladie de Lyme est transmise par la tique.
Oui, oui.
Mais pas par Christine, c'est symbolique dans le cas qui nous est.
Voilà, donc des affaires.
Oui, je crois que c'est des trucs, c'est des troubles plus ou moins neurologiques tout en général.
À la fois physique et neurologique.
Physique et voilà, neurologique, oui.
Bien, eh bien, on peut commencer avec à revenir sur Je ne serai plus psychiatre de Gérard Roff.
Ben justement, donc précédemment dans l'entonnoir, pour ceux qui avaient raté donc les épisodes précédents, tu peux peut-être quand même un petit peu faire la présentation avant de passer au nouveau passage. La dernière fois, on s'était arrêté en route, puisqu'on en était resté à des tentatives de réforme, finalement, de l'intérieur, de la psychiatrie institutionnelle, en essayant de racoler des gens qui, finalement, critiquaient les abus. Et donc, pour en venir, finalement, au titre du livre, Je ne serai plus psychiatre. Il manquait encore des passages. Ça doit faire effectivement 5 émissions sur le sujet. Si tu peux quand même un peu présenter le personnage en question, Gérard Roff.
Bah, Gérard Roff, on peut dire que c'est un activiste dans les années 70. Et il est entré en psychiatrie en tant qu'externe d'abord. Et puis ensuite en interne, donc il a monté de grade à l'hôpital du Vinatier à Lyon. Et puis il en sera radié, mais au bout d'un certain temps, à la suite de sa participation aux troubles insurrectionnels qui agitèrent l'institution à cette époque. C'est quelqu'un qui cofondera le groupe Information Asile, tout en fréquentant le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. On peut rappeler que son histoire s'entremêle à celle de Françoise Daubonne, avec qui il entretient une relation intense.
C'est une figure vraiment très connue des débuts du féminisme, Françoise Daubonne.
Oui. L'inventeuse de l'écoféminisme.
Tiens.
Compagnon de route du collectif des patients révolutionnaires de Heidelberg en Allemagne, le SPK. Donc, il raconte sa trajectoire de radicalisation contre l'institution psychiatrique jusqu'à ce qu'il en déserte, en quelque sorte.
Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il a déserté, mais on l'a un petit peu déserté aussi. Enfin,
tout à fait, oui.
Il s'est fait un peu kicker quand même, il semble.
Oui, d'ailleurs, tout est...
Enfin, il a tout fait pour ça.
On va vous raconter ça dans les extraits des dernières lignes du livre. Alors donc ils ont créé... Alors il est interne depuis un bout de temps, là, à l'hôpital de Vinatier. Puis ils vont créer la commission ergothérapie. Alors, oui, le temps de trouver la page.
Ergothérapie, ça veut dire thérapie par le travail, soigner par le travail. Rien que le nom, quoi que ça recouvre, ça donne carrément pas envie. Ça fait carrément peur, je trouve.
Alors, naissance du comité ergothérapie. Je tourne la page. Oui, bon. Non, c'est pas celui-là. Ah. Je comprends pas trop comment j'ai fait mes repérages. Bon. Alors. Oui, donc il y a un blanc à l'antenne pour un certain temps là. je suis désolé.
Le truc que je précise, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des renseignements sur ce qu'était exactement l'ergothérapie de nos jours. Je suis pas certaine, parce que c'est quand même les années 70 là, je suis pas certaine que ce soit la même chose que à son époque maintenant. Quoi qu'il en soit, un nom pareil, encore une fois, moi je trouve que ça donne carrément pas envie. Je veux dire, c'est quand même sur l'idée que la psychiatrie est quand même le reflet de la société, l'idée que quand on veut pas travailler, c'est quand même la preuve qu'on a une case en moins, et si on travaille, ça ne peut que équilibrer les gens, et en même temps, c'est quand même si c'est un privilège de pouvoir travailler, que ce soit en prison ou en HP, c'est la preuve que t'as quand même encore, t'es sauvable, quoi, si tu peux travailler. Donc...
Ouais. Bien, on va voir ça de plus près. Voilà. Alors, début de la commission ergothérapie. La réunion chez Vénus, le café d'en face, rassemblait chaque semaine une vingtaine de personnes. Le discours y était informel et confus. Bière, projet fumeux, fétichisme de la marchandise, infirmier visiteur d'un jour, pas de malade. Cependant, c'est là qu'on apprenait que le poste de télé de tel service avait été payé par la caisse ergothérapie, ainsi que les travaux de remise à neuf de tel et tel pavillon, que Jacqueline, le directeur, s'était fait construire une piscine dans sa villa privée par des malades. Un car les emmenait le matin et les ramenait le soir avec un casse-croûte à midi en échange de leur bon service.
Ça me fait rire parce que je me dis à ce moment-là, tous les gens qui bossent en usine sur des chantiers, en fait, on devrait, plutôt que de les payer, même les faire payer parce que c'est une thérapie en fait. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour ce que vous avez.
Ce petit foyer d'agitation prit dès le début une importance inattendue dans l'hôpital. Peu de temps auparavant, j'avais provoqué une réunion d'information à la 15e homme à l'occasion d'une grève CGT des infirmiers. Ceux-ci avaient exposé sans conviction leurs revendications, puis un silence tendu s'était installé. Un malade avait fini par proposer qu'eux aussi se mettent en grève pour soutenir les justes revendications des infirmiers. Aucun n'avait parlé de ses propres conditions de travail. « Vous ne devriez pas faire de réunion de ce genre, cela perturbe la tranquillité de nos malades », m'avait dit par la suite Madame Margotin, ergothérapeute du pavillon. Le simple fait de parler d'exploitation des malades était tout à fait inhabituel. Cela dépassait même l'entendement de beaucoup. Comment les malades qui n'étaient pas salariés, mais assistés, à qui l'on donnait du travail par charité, pouvaient-ils être exploités ? La commission ergothérapie me valut un long coup de fil inquiet du directeur. Pendant ce temps, nous réalisions que les malades de fait fournissaient le travail effectif de tous les services généraux, de la lingerie jusqu'aux cuisines, en passant par les courses, les travaux de terrassement, etc. Et qu'une grève des malades aboutirait purement et simplement à la paralysie générale de l'hôpital. Quand les élèves infirmiers, dont Cagnier voulait faire son cheptel, arrivèrent enfin, le ton changea. Nous étions maintenant plusieurs à nous demander sans complexe et à haute voix ce qu'était la maladie mentale et de quel droit nous nous serions permis, comme d'autres, comme le système nous y invitait, de la gérer avec une bonne conscience d'autant plus inébranlable qu'arbitraire. Rien de bien original à tout cela, mais si ce n'est que nous disions tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, en dehors du club des intellectuels spécialistes de la délectation morose de l'internat, devenu pour tout observateur le spectacle de l'impuissance des inquiétudes métaphysiques, l'exemple inversé est la justification d'un prétendu solide bon sens populaire musclé, copieusement nourri et entretenu par un solide syndicat CGT bourru, qui ne parlait du bien-être de nos malades que comme l'aboutissement fatal de ses propres revendications catégorielles. Oui, je rappelle qu'il faisait des longues phrases, Gérard Roff. Eux aussi, les élèves infirmiers, étaient là sans trop savoir pourquoi, si ce n'est qu'ils ne voulaient pas aller à l'usine, et qu'il est rare de trouver un poste où l'on soit formé et rémunéré à la fois. Fraîchement débarqués, ils promenaient un regard critique sur l'hôpital qui leur paraissait pour le moins étrange. Ils étaient assez représentatifs de la nouvelle promotion d'élèves infirmiers dont l'esprit critique et l'affirmation de soi avaient fait un bond redoutable en un an, redoutable pour le mode de formation que l'administration de l'hôpital entendait leur imposer, formation à son image dont ils ne cessèrent d'objectiver le caractère décati d'un positivisme des plus attardés. Ils entretinrent en permanence l'agitation et l'insatisfaction au niveau des cours. Ils s'ingéniaient à faire sortir de ses gonds leur directrice d'enseignement, une infirmière spécialisée, en lui posant simplement des questions. Nous nous sommes retrouvés une demi-douzaine dans un autre bistrot plus reculé. Ils étaient à la CGT par curiosité pour essayer de comprendre. Nous étions complémentaires puisque ensemble nous disposions d'un éventail étendu d'informations détaillées. Nous nous sommes séparés avec le projet de dépasser ensemble ces deux instances. Radio Vinatier. Alors Radio Vinatier, c'est la, le réseau de dénonciation des agissements des uns et des autres. Avait des antennes dépassant bien plus le mur d'enceinte que nous ne le soupçonnions. La cellule eut vent de la conspiration grâce au ragot du patron du bistrot. Les camarades furent chapitrés. Cet incident nous fit abandonner les réunions dans des endroits publics pour nous retrouver chez les uns et chez les autres, avec à manger et à boire. La commission y gagna en prestige. On ne savait plus très bien où ni quand elle se réunissait, ni quel genre de messe noire elle pratiquait, ni quel projet chaotique elle fomentait. Les jeunes qui se rendaient visite d'un pavillon à l'autre pendant les heures de service, ce qui en soi ne faisait pas partie des habitudes de la maison, étaient immédiatement enregistrés comme suspects. La fausse bonne conscience des ergothérapeutes était ébranlée. C'est singulier comme la majorité d'entre eux se mirent à s'identifier massivement à leurs fonctions, fermant leurs oreilles et à la moindre analyse politique de leur activité de façon quasi paranoïaque. Nous étions les conjurés. Voilà, j'ai un peu plus loin. La commission ergothérapie s'est transformée en groupe de vie où la contestation cherchait son langage et sa cohérence. Nous non plus ne savions plus ce que nous fomentions. Effectivement, il était bien question d'ergothérapie pendant ces soirées, entre autres, mais aussi en vrac, de la fonction répressive de la famille, de la folie qui n'était pas là où on pensait, et de mettre du sable dans les pointeuses. Nous avions des exemples pratiques de la répression quotidienne qui nous parvenait de tous les coins de l'hôpital. Les infirmiers constataient qu'ils étaient tout aussi surveillés que les malades, et que par le biais de la note administrative, leur liberté de mouvement était quasi nulle. Ils découvraient, sur le tas, l'apprentissage de l'hypocrisie et des mécanismes de compétition et de trahison, de méfiance réciproque, qui en était la conséquence. La note administrative tenait même compte, noir sur blanc, de la présentation extérieure, couleur des ongles et longueur des cheveux. « Prends trop d'initiative » sera mentionné pour une infirmière, présentation fantaisiste pour un autre. Leur cas personnel n'était qu'un maillon descendant de la camisole bureaucratique dont la finalité était, au travers d'eux, la garantie de la non-vie des malades écrasés. Alors là, un petit passage où l'on voit un peu comme ça comment infuse le pouvoir psychiatrique dans la société, en fait. À l'hôpital, cette entreprise chargée de traiter la vie humaine en non-vie, pour n'en extraire que le principe de marchandise, marchandise-travail et consommation de marchandises, il apparaissait de façon plus nette que dans d'autres administrations bureaucratiques que la lutte des classes ait investi le champ des fantasmes collectifs. L'interprétation en vigueur n'avait rien à voir avec la réalité. C'était l'interprétation de la classe dominante, celle des médecins et des internes cultivés qui ont le droit d'interpréter. Vous êtes infirmier, vous n'avez pas le droit d'interpréter, s'était fait dire l'un d'eux, encore trop fougueux, qui ne s'était pas encore fait réduire à l'hypocrisie radicale de la vieille garde. L'interprétation d'un cas, que l'unité soit l'individu ou l'institution, n'était donc que le prolongement idéologique du découpage arbitraire du territoire en propriété privée, le prolongement du geste de découpage anatomique du corps de l'homme en morceaux morts mais répertoriables dans un langage cadastral. La psychiatrie de droite et de gauche avait réussi ce tour de force d'inverser les notions d'interprétation de la réalité et de réalité de l'interprétation.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'était assez la mode
des
à l'époque.
Des fois, il est un petit peu abscon, quand même. Oui.
C'était assez la mode à l'époque d'avoir des formules comme ça.
Ça fait un peu situationniste, un peu comme langage qui te laisse un peu pantois. Tu dis, c'est de vouloir dire quelque chose, certainement, mais quoi.
C'est très debordien, oui.
Très debordien, oui.
Sur le ciel renversé de l'idéologie par un détournement pervers du langage, l'interprétation psychiatrique était présentée à tous comme un outil infaillible pour appréhender la seule réalité admise, la réalité objectivée.
Je vais faire comme une tentative, non, parce que c'est vrai que ça m'embête de rester comme ça à me demander qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ouais. Je vais faire une tentative de traduction. en langage bourrin comme le mien. Et comment dire, j'ai l'impression que ce qu'il veut dire, c'est que, en effet, ils n'ont aucune espèce d'interprétation politique, donc objective, parce que la réalité de classe est effectivement une réalité objective. Je veux dire, il y a des dominants, des dominés, des exploiteurs, des exploités, des gens qui sont du bon côté du manche et d'autres du mauvais côté. Et que c'est quelque chose. Et c'est vrai que je l'ai souvent constaté, hein, d'ailleurs, dans des discours de psy, qu'il se figure que l'idée de la lutte des classes, c'est un truc fantasmatique. Enfin, j'avais entendu ça sur une radio, une psy qui disait que quand un mec au téléphone disait que c'était quand même pas une interprétation de sa part que son patron l'exploitait, et la psy disait si, c'est vous faites une projection probablement de quelqu'un de votre père ou de quelqu'un de votre famille sur votre patron, alors qu'il ne nourrit que de bonnes intentions à l'égard de ses employés. Donc ça, finalement, ça pourrait, enfin, c'est comme ça que j'interprète, c'est que c'est ce qui fait quand même malgré tout la spécificité de Gérard Rolf, je trouve, c'est qu'il a vraiment une interprétation politique, et que c'est très très rare pour les gens qui ont une grille d'analyse de psy où tout n'est que interprétation. On peut guérir le mental, ou même, enfin, on peut guérir tout simplement. Simplement, il suffit de voir les choses positivement ou autrement. Or, il n'y a pas 36 manières de voir. On va projeter un truc sur les conditions de travail des ouvriers aux Philippines. Je veux dire, il n'y a rien de subjectif là-dedans. Tu vois, c'est pas. Tu peux. Il n'y a aucune manière de bien le prendre. Et puis, c'est objectif, quoi. Mais c'est très rare, en réalité, que des psys essayent de critiquer cette espèce de vision cette vision qui est effectivement une vision de classe, comme quoi si jamais t'es politisé, il existe des livres, par exemple je crois que c'est Toby Nathan, j'en suis même sûr, avait fait un livre pour dire que les militants, être militant était un symptôme de distorsion mentale, quoi, tu vois.
Ah oui.
Parce que bah oui, tu te dis pourquoi, donc tu te demandes qu'est-ce qui dans ta famille. Moi j'ai une psy qui m'a dit vous êtes militante parce que votre père était militant militaire par exemple. Tu vois, et donc tu vois, je pense que c'est probablement ce qu'il veut dire, et dans la mesure où des fois effectivement tu peux avoir, malgré tout, ça existe d'avoir une mauvaise interprétation de la réalité. Je sais pas, je pense aux complotistes, par exemple. Mais d'autres fois, si tu dis mon patron m'exploite, c'est pas une interprétation, c'est juste un fait. Donc, je suppose que c'est ce qu'il veut dire. Mais
ouais,
je le jurerais pas non plus, mais il me semble.
Disons que
ça serait cohérent.
En tout cas, c'est bien lu à travers la grille de lecture marxiste de l'existence d'une lutte des classes et de.
Enfin, marxiste et aussi anarchiste, hein, nous aussi.
Tout à fait, mais là, en l'occurrence,
on pense que la lutte des classes existe.
Quand je dis marxiste, c'est parce que
dans son cas, il est
dans
marxiste.
Son cas, parce que il est allé rejoindre ensuite le SPK, qui avait un discours très radical et marxiste à la fois. Donc, en fait, le pouvoir représenté par le personnel médical produisait la réalité des rapports interpersonnels permis et des fantasmes institutionnels en vigueur, chacun devant s'infléchir, consciemment ou pas, aux lois impératives de la séduction et de l'apprentissage du pouvoir. Chacun ici était tenu de sublimer sa propre réalité physique, psychique, son odeur, sa corporéité, et de contempler l'ombre chinoise de sa propre enveloppe vide, de sa propre marionnette aseptisée, répéter inlassablement, le même rôle. Le cinéma était permanent. Le schizophrène, c'est celui qui n'a pas la réalité dominante. Ça, c'est Hoff qui cite un graffiti. Donc, le schizophrène, c'est celui qui n'a pas la réalité dominante. C'est celui qui s'est fait scientifiquement dépossédé de la réalité, contraint d'accepter de se représenter mentalement lui-même comme extérieur à lui-même, c'est le cas particulier extrême du vécu général de dépossession du quotidien, éminemment contagieux parce que symptomatique, isolé et récupéré dans les rôles non violents de héros ou de victimes. Voilà, donc c'est une espèce d'analyse, d'une manière dont le pouvoir psychiatrique influence la société tout entière, dans le sens où elle veut lui montrer une autre réalité que celle qui est, qui est celle d'une à qui elle s'adresse d'une condition d'exploitation. En fait.
Moi, j'aurais dit que plutôt que... Enfin, c'est vrai que, par exemple, j'avais lu même dans Sans Remède des interprétations politiques avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Pour moi, le pouvoir psychiatrique est complémentaire de tout ce qui est la logique de la société et que c'est un secours et tout, mais je ne vois pas, comme j'ai vu des fois dans certains articles, comme étant un point de départ. Quoi. Tu vois, ça me semble plutôt complémentaire, comme ce qu'on disait sur l'ergothérapie. Le fait, la notion du travail et du fait qu'il est nécessaire qu'il y ait du bétail qui bosse pour qu'il y en ait d'autres qui se sucrent sur leur dos et puis qui fassent pas les corvées, c'est une réalité dont le point de départ n'est pas l'interprétation psychiatrique, comme quoi si tu veux pas travailler, c'est la preuve que t'es aliéné.
Et que si tu
pour te guérir, il faut qu'on te colle au charbon, quoi, tu vois. C'est une espèce de réalité globale dont la psychiatrie est un élément absolument cohérent, quoi, avec le reste. Enfin, c'est quel soin entre guillemets pour quelle société, finalement. Tu te dis il est logique que par exemple je sais que mes enfants qui aimaient pas beaucoup aller à l'école, on nous les envoyait chez le psy de l'école ou chez le psy tout court. Tu veux pas aller à l'école, mais le travail aussi, c'est on considère que c'est une preuve de si tu veux pas t'intégrer, c'est bien la preuve que il faudrait te remettre, et puis de toutes les manières, la preuve que t'es guéri, c'est si jamais tu te remets au charbon, quoi, tu vois, voilà.
Moi, j'ai l'impression que là, Gérard Hoff opère une démédicalisation de la maladie elle-même, c'est-à-dire quand il dit celui qui est contraint d'accepter de se représenter mentalement lui-même comme extérieur à lui-même, comme une action politique sur les individus.
C'est-à-dire
des individus qui sont contraints de se représenter comme extérieurs à eux-mêmes.
De quelle manière tu penses qu'on les contraint à ça?
C'est ce qu'il dit par rapport au cinéma, par rapport à l'histoire de rôle qu'on doit tenir.
Ouais, d'accord. Ça concerne
ça rejoint Debord.
Les passions, on peut dire que. Quand on parlait de Debord tout à l'heure, c'était quand même l'idée du spectacle général.
C'est
quoi.
Ça. Et donc tout est politisé, même la maladie. C'est quoi, en fait? C'est ça le. Alors que. Quelqu'un qui se sent pas bien, en fait, peut très bien se sentir extérieur à lui-même ou à elle-même, sans l'idée que ce serait un système tout entier qui le mettrait dans cet état, quoi.
Mm-hmm.
Enfin voilà, c'est un truc comme ça. Bien, alors après on revient un petit peu à quelque chose, on revient sur Terre un petit peu. Chez Hochmann, mon ancien supérieur, seule une réunion mensuelle, la réunion Pécule, contrastait par son animation. Cette agitation était difficilement compréhensible pour qui n'était pas initié au mystère de l'ergothérapie. La réunion des partages de bout de chandelle. Au bout de la salle, un tableau noir, un tel 52 heures, 9 francs 25, un tel 160 heures, 30 francs. C'était un très ancien malade du pavillon, obèse. De l'état de psychopathe irréductible, il avait acquis tous les caractères d'une motte de beurre depuis sa lobotomie. Oui, parce que la lobotomie était pratiquée encore à cette époque. Un papier à la main, il annonçait les gains de chacun et les écrivait au tableau. Parfois, il y avait conflit et les pensionnaires se disputaient âprement quelques centimes. Parfois, Hochmann intervenait pour que les mérites subjectifs de tel ou tel de ses protégés soient pris en considération. Va-t-il à l'ergothérapie ? Combien de fois depuis ai-je entendu ces paroles dans la bouche d'un médecin-chef ? Ergothérapie, étymologiquement, thérapie occupationnelle. Le fait d'aller à l'ergothérapie était unanimement reconnu par l'opinion générale comme un signe objectif d'amélioration. Oui, monsieur, il va à l'ergothérapie. Très bien, je lui accorde donc une permission dans 15 jours. Le malade allait mieux, en effet, puisqu'il était capable d'assembler toute la journée, sans révolte, des pinces à linge, des pièces de loto, des fleurs en plastique pour cimetière. Mort-vivant s'étant résigné, comme tout bon citoyen moyen, à creuser tous les jours un peu plus sa propre tombe. À raison de 1,50 francs par jour.
C'est pas que ça, c'est dur de retraduire qu'est-ce que ça représentait à l'époque, mais je suppose que c'était vachement intéressant pour les... pour ceux qui bénéficiaient de leur travail, enfin, par rapport à... le code du travail ne devait absolument pas s'appliquer, comme pour les prisons, d'ailleurs, je suppose.
Oui. C'est vraiment un monde à part. Voilà, alors...
C'est une différence qu'on pourrait dire quantitative, malgré tout, parce que l'ouvrier qui travaillait à faire les mêmes choses dans une usine... fondamentalement, on pourrait dire que la question est la même. Ils gagnaient simplement un peu plus. D'un autre côté, ils étaient nourris, logés, etc. Donc, la différence avec le citoyen normal, entre guillemets, est une différence de quantité de rémunération, c'est tout. Enfin, je sais pas, hein, c'est pas, il devait faire, tu fais un boulot dans les deux cas qui, enfin, ça devrait pas exister. C'est bizarre parce que c'est le thème du débat qu'on va faire dimanche, c'est ça, sur l'idée de, dans une société libertaire, comment est-ce qu'on concevrait le partage des tâches, et il est hors de question qu'il y ait des gens qui continuent, sous prétexte qu'ils étaient ouvriers dans cette société-là, à avoir comme activité d'être en usine, à faire un boulot comme ça, et pendant qu'ils soient dans un asile ou non, hein, c'est pas la question, d'ailleurs, il y aurait pas d'idée d'asile, évidemment. Mais enfin, en tout cas, il n'est pas question de qu'il y ait des gens qui soient assignés à ce genre de tâches, pendant que d'autres feraient des choses, des activités intéressantes, épanouissantes, etc. Même si là, il n'y aurait plus de question d'argent, le partage des tâches, c'est... Il y a un côté, dans tout ce qui concerne en réalité l'hôpital psychiatrique, où c'est comme si c'était une exagération, enfin un reflet à peine déformé de toute l'horreur de la société capitaliste et tu vois étatique telle qu'on peut la combattre, quoi, tu vois. C'est encore pire, mais fondamentalement c'est le même principe. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre.
Oui,
c'est alors... comme une espèce de ouais, voilà, de reflet à peine déformé de ce qu'est la logique de la société, quoi.
Oui. Un microcosme, en quelque sorte.
Oui, voilà.
Alors, un dernier extrait sur l'ergothérapie. Et puis après, on va peut-être aborder l'idée, avec le titre. On se demande pourquoi Gérard Roff ne voulait plus être psychiatre. Alors, du point de vue du capital, il ne s'agit de rien de moins que d'une sincère tentative humanitaire. On parle toujours de l'ergothérapie. Épistémologique, sur les subtiles différences entre pécule et salaire, oui. Voir les brillantes argutises épistémologiques de HB sur les subtiles différences entre pécule et salaire. Aux quantités négligeables, méprisables, puisque devenues incapables de plus-value, il propose froidement, à titre thérapeutique, la dignité correspondant à la valeur hypothécable d'un paquet de cigarettes par jour. Oui, parce que le paquet de cigarettes, oui, c'est l'instrument de mesure, en quelque sorte. C'est ce qu'on peut se payer pour une journée de travail, à peu près, quoi. Plus qu'un réel souci de rentabilité, l'essentiel est d'imposer définitivement le culte unidimensionnel du travail. Hors du travail, point de salut. Ils font quand même quelques bénéfices, hein, je crois. Asile, prison, usine, école, le capital ne connaît qu'un seul comportement. Les explications morales, aussi bien que celles qui ressortissent à l'économie vulgaire, ne sont valables qu'a posteriori. On peut constater ou contester l'influence bénéfique du travail carcéral, on peut dresser la liste de ceux auxquels il rapporte et tenter d'évaluer leurs bénéfices, on n'obtiendra jamais d'éléments décisifs. Ce qu'il faut affirmer, c'est qu'il serait pratiquement inconcevable dans une société capitaliste que la force de travail de 30 000 personnes reste inutilisée. Il serait dangereux dans un monde où chaque usine est une prison de ne pas transformer les prisons en usines. Voilà, encore un inversement, cher...
Juste une parenthèse sur ce passage-là. Ça date des années 70, Mais l'avenir a démontré que la société capitaliste pouvait tout à fait fonctionner avec des millions de chômeurs et que c'est pas... C'est comme leur prêter une idéologie du travail. Moi, personnellement, on avait même fait des émissions là-dessus, c'est le capitalisme n'est pas une idéologie. C'est-à-dire que je pense que... Je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs par rapport à ça. Ce qui est vrai pour l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire que dans la logique psychiatrique, on veut effectivement... Il y a une idéologie de la psychiatrie, si tu veux. Ça part d'une idée, enfin, même si il y a des psychiatres qui font ça pour les sous, ils ont quand même des idées sur ce qu'est la normalité, par exemple, sur ce que les gens doivent faire et pas, doivent être et ne pas être, par exemple, pas feignant car c'est la mère, la paresse est la mère de tous les vices ou des choses comme ça. Ça, c'est la psychiatrie. Mais le capitalisme, c'est pas ça. Le capitalisme n'a qu'une seule logique, c'est la logique de la prédation. C'est-à-dire que la seule chose qui intéresse un patron, c'est de se faire du pognon. Si jamais c'est avec une machine, plutôt qu'avec quelqu'un qui restera chez lui à se tourner les pouces, il en a rien à carrer.
Il est prêt à faire l'éloge de l'appareil, c'est
d'avoir le plus de blé qui est le possible dans sa poche. C'est une simple logique de prédation. Et ils s'en foutent qu'il y ait des feignants, des millions de feignants et tout, ils s'en foutent du moment qu'ils s'en mettent plein les poches. Mais la psychiatrie, elle, a une idéologie. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Les psychiatres, eux, ils ont vraiment... je suis sûre qu'il y en a plein qui sont convaincus d'être vachement utiles, d'être vachement plus lucides que les autres, et de faire du bien à leurs patients, parce que, voilà, ça ne peut pas leur faire de bien de rien foutre, etc. Enfin, qu'ils ont la valeur travail, par exemple.
Pour beaucoup,
mais un patron, lui, il n'a pas la valeur travail.
Pour beaucoup.
Mais surtout pour lui-même.
Moi, je dirais que ce n'est pas le cas de tous les psychiatres, hein, mais pour beaucoup, oui.
Moi, en tout cas, dans la logique même de ce qu'est la psychiatrie, il y a une idée quand même d'idéologie, quand même. D'ailleurs, que dénonce justement Gérard Orff, il y a quand même l'idée que de ce qu'est par exemple la normalité, de ce que devraient être les gens, de celui-là, il se comporte pas comme il faut, il voit pas les choses comme il faut, et celui-là, oui, enfin, on s'intéresse, même si c'est pas pour leur plus grand bonheur, mais on s'intéresse, malgré tout, peu ou prou, on s'intéresse aux patients, on dit qu'il faut qu'ils fassent ci ou ça, celui-là, il est comme. Mais un patron, en revanche, ne s'intéresse absolument pas. Pas plus que je m'intéresse à ma machine à laver. Tu vois, je veux dire, c'est...
Oui, il y a un seuil clinique entre la normalité et la pathologie.
Voilà, et c'est quelque chose qui est quand même qui imprègne l'idée de la psychiatrie. Alors que le capitalisme n'a qu'une finalité, c'est de se faire du pognon à n'importe quel prix, et de préférence le prix le moins élevé. Et je pense que par exemple un patron qui embauche que ce soit des prisonniers ou des prétendus malades mentaux, il a qu'une seule idée à l'horizon, c'est que ça va lui coûter moins cher et que donc ça lui fera plus de pognon dans sa poche. Voilà.
Alors, c'est vrai que à l'époque où Gérard Orff écrivait ça, on avait un contexte du travail où c'était quasiment pratiquement le plein emploi en France.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Oui. Donc, il n'avait pas pu constater que la société envisageait fort bien d'avoir plein de feignants. Voilà.
Ainsi, voilà, sur l'ergothérapie. Et... j'avais envie de vous lire justement un peu la suite des luttes que Gérard Orff a menées au sein de l'hôpital avant d'être sorti à coup de pied au derrière, peut-être, on pourrait dire. Alors, suivi une période de lutte qui fera l'objet d'un prochain volume. Le prochain volume n'a pas eu lieu, mais... Du côté des internes, nous avons été plusieurs à mijoter un truc du genre grève illimitée des rôles. Ce qui demandait un engagement total, dont ils furent bien incapables, se révélant en pratique de beaux phraseurs plus attirés par leurs pantoufles que par l'aventure. Après une période euphorique de défonce et de remise en question affichée du couple, leur révolte tourna court, laissant à moi et à d'autres après coup le sentiment amer de nous être compromis dans de vulgaires partouzes bourgeoises. Ceux qui viennent en touristes consommer de la contestation n'ont plus aucune excuse quand ils retournent ensuite endosser comme devant leur rôle de flic. Le plus dégueulasse d'entre eux, Pierre Évrard, devenu depuis médecin-chef de l'hôpital de la Queue-en-Brie pour mieux m'enterrer, dédica ça sans sourciller, sa volumineuse et putassière thèse d'antipsychiatrie à Freud, Ling, Marx et Hoff. Que la honte l'étouffe. Dieu ne reconnaissait plus les siens. Les internes prenaient du LSD, les fous distribuaient des tracts. Un matin, les murs, absolument tous les murs de l'hôpital furent couverts de graffitis. Dieu protège la psychiatrie sur l'église. Poison varié, le pouvoir se dose au milligramme sur les murs de la pharmacie centrale. Arbeit macht frei, si Hitler vivait encore, il serait ergothérapeute sur le pavillon central d'ergothérapie.
Si ça se trouve, c'est Orff lui-même qui avait fait tous ces graffitis.
On ne le saura jamais.
Voilà.
Des malades fermèrent au nez d'un médecin chef les deux battants vitrés de la porte du centre social sur lesquels il put lire « On est fou, mais on n'est pas con ». Abat les frontières, les murs, les vêtements. Rappelez-vous Yves Bertherati.
C'est qui ?
Alors, Yves Bertherat, pardon. Yves Bertherat est un psychiatre lyonnais qui est mort poignardé par un de ses malades. Un pavillon du Vénatier porte son nom en signe de commémoration. Oui, donc ça pourrait vous arriver. Voilà. La révolution, c'est quand on pendra le dernier psychiatre avec les tripes du dernier administrateur sur les murs de différents pavillons. Administration embauche psychiatre pour psychiatre. Oui, sur les murs de l'administration. Il faut dire que le substitut du procureur de la République de Lyon avait demandé mon examen psychiatrique que je devais passer à Dijon, aucun psychiatre lyonnais n'ayant accepté d'assumer cette responsabilité. Que la cafétéria s'était transformée en lieu de parole libérée depuis que nous y avions diffusé la lettre suivante sous forme de tract distribué par le comité de lutte Vénatier, à savoir cette bande informelle où l'on ne distinguait plus les malades des bien portants, communément appelés par les concierges, l'administration et les syndicats, la bande à off. Une nuit, un interne de garde qui se rendait à un pavillon pour soigner une urgence vit surgir un infirmier tessant de bouteilles au poing qui lui dit « Oh, excusez-moi, je croyais que c'était la bande à off ». C'était à la cafétéria que l'on voyait des malades s'exprimer ainsi. Quand je suis arrivé, j'étais folle, je croyais que mon médecin voulait me tuer. Mais il voulait bien le faire, reprenait-elle après un instant de réflexion, puisqu'il me donnait des neuroleptiques. C'est des saloperies ces machins-là, je les jette maintenant. Tu les prends toi ? Tu ferais bien mieux de les jeter. Madame X, réputée malade mentale, 69 Lyon. Lyon le... voilà, donc une date... Docteur, après notre entrevue où je vous exposais mes peurs et mes angoisses, surtout en cette période de l'année où je perpétue mes tentatives de suicide, période pendant laquelle j'ai eu la franchise de vous avouer que je m'adonnais à la boisson pour empêcher mon cerveau d'éclater, vous n'avez trouvé rien d'autre que de décider par écrit de m'obliger à rentrer le soir chez moi et au surplus à m'encourager à me saouler la gueule. Je ne pensais pas trouver tant de bassesse et de lâcheté chez les psychiatres. Il est vrai que le psychiatre décide de ce qu'il veut et que le malade n'a plus qu'à s'incliner devant cette décision. Le malade n'a pas d'autre alternative d'ailleurs, c'est à prendre ou à laisser. J'avais cru trouver en vous mon sauveur et voilà que subitement je découvre un assassin en face de moi, mais un assassin patenté, celui qui fait office de bon samaritain alors qu'il vous envoie à la mort avec raffinement. Alors on atteint le point Godwin. Entre vous et les SS nazis, je préfère encore ces derniers, car eux ont bien montré qu'ils étaient déterminés à exterminer la race humaine. Mais vous, les psychiatres, vous faites 10 ans d'études pour mieux torturer vos patients et leur faire croire à la vie. Bien sûr, vous êtes diplômé pour accomplir ces crimes, et sous ce titre ronflant de psychiatre se cache l'être sans cœur qui se permet de vous juger. En ce qui me concerne, je ne suis pas dupe de vos façons d'agir, et pour vous le prouver, je ne me plierai pas à vos ordres, et de ce fait, je n'accepte pas les souffrances que vous m'imposez, souffrances supplémentaires et inutiles qui m'enverront à la mort lente. J'ai vu clair dans votre jeu après 2 mois d'aveuglement, car comme tout être humain, j'ai espéré, mais à présent, j'ai compris. Vous, docteur, êtes le pot de fer, et moi, malade, je suis le pot de terre. Résultat, je dois m'écraser. Eh bien non et non, je conserverai mon droit de mourir ou de vivre selon ce que je déciderai. Voilà tout. Peut-être aussi, et je l'espère, quand quelques psychiatres seront tués par leurs malades à bout de nerfs, la future génération de psychiatres fera bien attention de ne pas envoyer ces malades au suicide, car leur vie est en danger. Je parle de celle des psychiatres, bien sûr. Jusqu'à présent, le malade est écrasé, mais viendra un jour où la peau d'un psychiatre ne pèsera pas lourd dans la balance de la vie. C'est peut-être déjà arrivé, mais la presse se garde bien d'en parler et le corps médical étouffe parce qu'il a déjà peur. Réfléchissez là-dessus. Continuez donc vos crimes au nom de la psychiatrie, mais faites attention au revers de la médaille, ça coûte parfois très cher. Je vous laisse à vos méditations, si vous en êtes encore capable. La vengeance est un plat qui se mange froid. Une malade qui en a marre.
Je juste faire des commentaires sur ce passage-là. Alors, sérieusement, je suis touchée, quoi. Je veux dire, on sent une révolte tout à fait légitime, si tu veux. Mais en même temps, quand t'as un peu de recul, tu te rends compte que premièrement, ils en ont sous le pied. Enfin, je veux dire, quand il s'agit de si jamais ils détectent le moindre danger, en effet, c'est bien le pot de terre contre le pot de fer. Mais d'autre part, je suppose que Orff ne voit pas comme issue le fait que les psychiatres chient dans leur froc en continuant à enfermer les malades, mais en les traitant un peu moins mal, mais que on puisse venir à bout de l'institution psychiatrique. Et en même temps, quand on est révolutionnaire, on se dit que, comme toutes les institutions qu'on peut contester, l'école obligatoire ou le travail, etc., ça ne peut disparaître qu'à l'issue d'une révolution. La psychiatrie est un élément c'est dans la logique du système dans lequel on est, quoi. Mais en même temps, quand elle dit un jour les psychiatres ils auront peur et du coup ils se tiendront à carreau, bah il y a des patrons des fois qui sont tués par leurs employés et le capitalisme ne s'en porte pas plus mal pour autant.
D'ailleurs, c'est vrai que c'est arrivé que des soignants se fassent assassiner par des...
Oui, l'idée ça serait plutôt qu'il n'y ait plus d'institutions psychiatriques, et en même temps, on sait bien que tant qu'on sera dans un système comme celui-là, ça inclura l'idée de la psychiatrie, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui peut se, comme toutes les autres, comme l'idée du travail, tu peux essayer de limiter les dégâts, mais tu peux pas en venir à bout tant que tu viens pas à bout du système qui l'a vomi, quoi. Tu vois. Bon.
Alors, pour la dernière minute, on va faire un petit résumé. Donc, suivi une longue période de guérilla où le comité de lutte ne devait pas cesser de ridiculiser l'administration. Le directeur m'avait suspendu de mes fonctions et interdit de séjour dans l'hôpital. Et alors, donc, quand ils y entraient, c'était par... en clandestin, désormais. Bon, et puis peu à peu, ils se sont tous fait un petit peu arrêter, relâcher. Et ils se sont... disons, il y a une réaction de répression, quoi, en fait, qui semblait tout à fait logique par rapport à l'antagonisme existant. Alors, encore un petit extrait, fin de l'aventure. Nous en avions décidément fait bien plus que l'appareil psychiatrico-pénitentiaire ne pouvait supporter. Le contingent d'infirmiers musclés doubla à la cafétéria, toute tête inconnue était énergiquement reconduite vers la sortie. Un malade qui avait distribué des tracts avec nous fut transféré d'un pavillon ouvert à un pavillon fermé. L'atmosphère générale à Lyon, sur le plan des relations amicales et politiques, devint déprimante. Chaque jour arrivaient d'autres histoires pénibles, les uns allaient en prison, les autres flippaient. Ce fut bientôt notre tour. Nous n'étions pas assez vigoureux physiquement pour pouvoir garder des contacts avec ceux de l'intérieur. Et par cette impuissance, nous perdions tout ce que nous avions de commun à faire ensemble. Après, il passe par... des causes de désaccord surgirent bientôt entre nous. Les uns établirent un calendrier des réunions, les autres le refusèrent. Des copains proches de nous furent arrêtés. Le pavé devenait de plus en plus brûlant sous mes pieds. Je préférais partir à l'étranger. Je passais par Heidelberg au moment du procès du SPK. Societalistis Patienten Collectif. Donc après, il raconte ça, le procès du FPK. Et donc là, par exemple, une petite phrase, une dernière. Le système de santé actuel n'est pas là pour guérir, mais pour diminuer chaque individu en le ramenant aux dimensions de la résignation et le condamner donc à être malade, c'est-à-dire à orienter sa révolte dans un sens névrotique ou somatique.
Oui, là, c'est...
Le contact avec le SPK...
Je peux juste faire l'annonce pour le débat que le groupe Libertas d'Ivry, donc, on fait un débat, donc on organise un débat Donc c'est avec le groupe Libertaire d'Ivry, qui comprend l'équipe de l'émission Lundi Matin sur Radio Libertaire. En fait, c'est à Publico, la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, République Fille du Calvaire. Et on organise une projection débat, donc c'est à 16h, mais on accueille à partir de 15h. De toute façon, Publico est ouvert l'après-midi, hein, le dimanche. Et le débat, c'est autour d'un film d'épouvante. Il n'est pas sanglant, mais il fait quand même un peu peur. Et tout, ça s'appelle l'effet nocebo. Et en fait, c'est Christine, vous êtes une tique. En fait, c'est basé sur une histoire vraie. Une usine de Manille qui avait brûlé, faisant 72 morts. Et dans le film, en fait, c'est une styliste qui doit subir la vengeance d'une ouvrière qui a réchappé par miracle à cet incendie. Et donc c'est vraiment une critique du capitalisme dans ce qu'il a de plus brutal, parce que les rapports nord-sud, en ce qui concernait les ouvriers en psychiatrie ou dans les prisons, c'est la même chose en pire. Ben, la façon dont on exploite les ouvriers ouvrières du tiers-monde, c'est la même chose, mais en pire, finalement. Et donc, le débat, ça sera comment se débarrasser du capitalisme. Et donc, voilà, si vous voulez venir discuter avec nous et voir ce film, enfin, si vous voulez pas voir un film qui fait peur, vous pouvez toujours rester dans la librairie, soit venir seulement une fois que le film est terminé. Voilà.
Donc, c'est dimanche,
à quelle heure ? C'est dimanche prochain, voilà, à Publico.
À quelle heure ?
Je te dis que on accueille à partir de 15h, la projection. D'accord. C'est à partir de 16h. Et c'est entrée libre, évidemment.
Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir. Nous vous disons au revoir et nous vous laissons avec un rayon de soleil.